Moi, c'est André de Mbujimayi au Katanga oriental. Je réfute totalement ce que
tu dis. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bon début de semaine à tous et merci de retrouver parole aux auditeurs. La conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, s'est dit favorable au dialogue national initié par le chef de l'État comme voie idéale de la sortie, de la crise et fait quelques propositions sur les contenus de ces concertations, entre autres le respect de l'ordre constitutionnel. Nous en parlons aujourd'hui dans cet échange et partage avec comme question principale que vous inspire la proposition des évêques du Congo contenue dans leur mémorandum. Rejoignez-nous pour participer à ce débat à l'adresse pa@radiocapi.net ou encore appelez-nous au 081 890 63 15. Titi Poutou, Pierrot et Lamégie sont à la réalisation de ce programme mis en onde par Jean-Claude Tiala et présenté par J.R. Lungembo sous la supervision de Julien Niamouini. Excellente condition d'écoute à toutes et à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Nous recevons dans ce studio M. l'abbé François Louyéyé, aumônier de la classe politique. Monsieur l'abbé, bonjour.
Bonjour, mon frère.
Voilà, en lisant le mémorandum des évêques, on a l'impression d'avoir en face de la question donc un médiateur qui définit déjà la règle du jeu. Donc les évêques qui sont là, qui s'érigent en médiateur.
Bon, un médiateur, non, les évêques sont là pour éclairer la population et la nation, pour les orienter vers le vrai développement. Alors bon, c'est de leur droit que de pouvoir orienter, de pouvoir donner leur point de vue. En tout cas, par rapport au dialogue, ils étaient les premiers à en parler au lendemain des élections, comme on le sait. Mais on ne les a pas suivis, et aujourd'hui l'histoire nous a rattrapés, et nous voici devant l'obligation d'organiser un dialogue. Voilà pourquoi les évêques ont écrit un mémo à l'endroit du chef de l'État. Nous espérons qu'il va en faire bon usage pour le bien de la nation.
Un mémorandum écrit par les évêques, le cahier des charges écrit par les opposants. Entre-temps, aux côtés de la majorité, silence radio, on ne définit pas les contenus. N'est-ce pas là une façon, en tout cas pour les évêques et l'opposition, de charger davantage la majorité?
Mais non, on ne cherche pas à charger la majorité, mais on veut aller dans la direction du développement de la nation pour une vraie paix, pour une cohésion retrouvée. Parce que comme les évêques le disent dans leur mémorandum, c'est le malaise qui nécessite aujourd'hui, qui milite pour le dialogue aujourd'hui, est lié au manque de consensus national au lendemain des élections de novembre 2011. Donc il y a une historique, il y a des causes. Voilà pourquoi les évêques ne peuvent pas se taire dans leur souci de voir ce pays avancer. Eh bien, les évêques parlent, ils rappellent la situation, ils disent, voilà, les élections se sont mal passées, de là, la cohésion nationale a été atteinte, en tout cas entamée. Au point que ceux qui se croyaient être les vainqueurs, donc le camp aujourd'hui au pouvoir, se voient pratiquement obligés aujourd'hui de reconnaître les faits et de dire oui, nous voulons le dialogue, quoi, de le reconnaître. Mais seulement, nous voulons, les évêques veulent qu'ils aillent jusqu'au bout, c'est-à-dire un dialogue qui intègre toutes les couches de la population, de la nation, et un dialogue qui, par principe, n'exclurait aucun problème, aucun sujet, qu'il n'y ait pas de sujet tabou. Voilà.
Oui, alors les évêques ont écrit un mémorandum, on sait par définition, un mémorandum c'est comme un aide-mémoire, oui. Déjà pour rappeler certaines choses. Est-ce que vous ne pensez pas comme une certaine opinion qui veut qu'on puisse mettre en place, dans la mise en place d'une commission, oui, qui pourrait tabler, en tout cas travailler sur le contenu même, oui, de ces dialogues? Est-ce que vous partagez ces points de vue? Mais comme ça, on peut mettre ensemble le mémoire, le mémorandum, le cahier des charges de l'opposition, et tous ensemble, on sort un point commun qui constituerait le contenu de la matière.
Oui, je crois que c'est une bonne démarche. De toutes les façons, les évêques n'imposent pas une procédure comme telle. Les évêques établissent d'abord la nécessité de retrouver la cohésion nationale. Et ils constatent que pour que cette cohésion nationale soit retrouvée, il faut un dialogue inclusif. Maintenant, par rapport à la méthode, donc à la procédure à suivre, il me semble tout à fait normal qu'on puisse commencer par avoir un bureau qui va préparer, qui va recueillir les différents points de vue, etc., de façon à pouvoir préparer un document de travail. Pour qu'on n'arrive pas à ce dialogue-là, comme ça, avec des idées un peu dans tous les sens, c'est pas bon. Donc, il est bon qu'il y ait un comité qui puisse préparer le travail. Mais il est aussi vrai qu'il est bon que dans ce comité-là, qu'on puisse retrouver les délégués, les représentants de toutes les tendances qui ont quelque chose à dire, de façon à ce qu'on puisse arriver à avoir déjà un cahier des charges assez harmonisé au niveau des différentes composantes.
À moins que notre mémoire nous trompe, c'est vrai qu'à l'arrivée de l'AFDEL en 97, juste après, on a fait appel à ceux qui étaient de Congolais de la diaspora, qui sont venus, en tout cas, assister. Il y a eu des assises qui ont été organisées. Et bien avant, il y a eu ce que nous avons appelé la Conférence nationale souveraine, et plus tard, on a eu organisé le Sam City et autres. Aujourd'hui, il y a Kampala qui se tiennent. Un autre dialogue pour la cohésion nationale, n'est-ce pas là des trop?
Non,
parce qu'il y a déjà des textes qui existent.
Ce n'est pas de trop, parce que, vous savez, pour qu'une démocratie se mette réellement en place, il faut du temps et il faut des étapes. Et chaque fois qu'un dialogue est nécessaire, il faut le faire. Ça fait partie. Qu'est-ce qui nous amène aujourd'hui à... C'est parce que, comme je le disais tout à l'heure, au lendemain des élections, tout le monde avait constaté que ça s'était très mal passé, même ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, mais on n'a pas voulu en tirer les conclusions, les conséquences. Alors, ceux qui étaient au pouvoir croyaient qu'ils ont reçu le morceau, c'est à eux d'avancer, au point que les évêques leur ont dit, attention, si vous dirigez ce pays par défi, un désordre risque d'arriver dans ce pays que vous ne saurez plus contrôler. Voilà. Donc, il faut qu'il y ait dialogue, c'est-à-dire que chaque fois que le consensus est rompu, chaque fois que la cohésion est atteinte dans ses racines, il est bon qu'on se mette ensemble pour parler. Même dans les pays de vieilles démocraties, il y a toujours des réunions qui se tiennent, des conciliabules, des rencontres, des débats, des discussions, etc. Je crois que ce n'est pas un dialogue de trop, ce n'est pas une réunion de trop sur la marche de la démocratie. Je crois que
c'est parce que les Congolais craignent toujours ou redoutent ces phénomènes de partage des pouvoirs à chaque fois qu'il y a rencontre, à chaque fois qu'il y a concertation. Finalement, on aboutit toujours à partager les pouvoirs et aux grandes dames de la population.
Non, justement, il faut d'abord se poser la question, qu'est-ce qu'on veut chercher réellement dans ce dialogue? Quel est l'objectif? Pour les évêques, c'est clair. La cohésion nationale a été entamée au plus profond d'elle-même. Il n'y a plus consensus parce que les élections se sont mal passées. Voilà pourquoi il est bon que nous nous mettions ensemble pour qu'on en parle. Si les élections se sont mal passées, pourquoi les élections se sont mal passées? Comment se sont-elles mal passées? Quelles sont les leçons que nous pouvons en tirer? Ce qui ne veut pas dire nécessairement, toi de là que je m'y mette. Non, c'est question qu'ensemble nous puissions tirer des leçons pour un avenir meilleur. Mais seulement dans notre pays, ceux qui sont déjà au pouvoir craignent parce qu'ils se disent on va nous arracher le pouvoir. Ceux qui n'y sont pas encore pensent que c'est le moment d'aller arracher le morceau.
Parce qu'en démocratie, c'est qu'on va à la conquête du pouvoir et faire en sorte qu'on puisse le garder le plus longtemps possible.
Oui, mais il y a des mécanismes et des méthodes pour y arriver. C'est ça la différence. Et puis il y a des échéances, et puis il y a des mandats. Tout cela, nous devons en tenir compte. Même si aujourd'hui nous constatons qu'effectivement ça s'est mal passé, la question devrait se poser. Maintenant que ça s'est mal passé, nous tous nous sommes d'accord que ça s'est mal passé. Que faire?
Oui, parce que si nous nous tenons toujours au niveau des élections, c'est vrai aujourd'hui, au niveau du Parlement, il y a eu la nouvelle loi sur le fonctionnement de la CENI. Je crois qu'à ce niveau-là, il y a déjà des avancées pour dire que demain, ça serait mieux que ce qui s'est passé autrefois.
Mais les mêmes évêques disent que, les évêques ont dit clairement que cette loi-là n'est pas encore satisfaisante parce que elle comporte en elle-même déjà des germes, n'est-ce pas, de méfiance, de conflit. Donc tout cela est à examiner sérieusement. La difficulté chez nous, c'est quoi? C'est comme je l'ai dit tout à l'heure, le pouvoir n'est pas conçu comme un service pour la nation. C'est-à-dire, on est au service d'un peuple qui doit sentir que nous allons de l'avant, que le pays se développe. Ceux qui sont au pouvoir souvent conçoivent le pouvoir comme leur tour de manger le morceau. Voilà la difficulté dans notre pays.
Voilà, alors si nous scrutons ce mémorandum des évêques, on se rend compte que déjà, à leur niveau, ils ont verrouillé et ils ont lancé une sonnette d'alarme en disant d'ailleurs que vous pouvez toucher à tout, mais sauf à l'ordre constitutionnel. Qu'est-ce que cela peut nous inspirer?
Mais cela veut dire justement que les évêques le voient loin. Tout comme au mois de février 2012, ils avaient déjà sonné la la sonnette d'alarme pour dire attention, si vous voulez que les élections se passent bien, il faut respecter ceci, cela, etc., etc. Ils avaient donné tout un programme dans une lettre qu'ils avaient publiée, mais qu'on n'a pas suivi. Conséquence, ce que on
en
voulait.
En 2006, on a révisé la Constitution en 2000, avant d'aller aux élections.
Aux élections, oui, de 2011, de manière cavalière, justement. Et c'est tout cela, c'était pour un positionnement politique, c'est-à-dire pour rester le plus longtemps au pouvoir. C'est comme ça que maintenant les évêques disent attention, ne refaites plus ce que vous avez fait là. Il faut respecter l'article 220 de notre Constitution qui veut que, voilà, nous réaffirmons que notre Constitution, qui a fait l'objet d'un consensus national par un référendum, donc la population s'est prononcée, s'est exprimée, et qui est le socle de notre démocratie, ne doit pas être modifié en son article 220. C'est pour dire que si on va jusqu'à toucher à cet article-là, mais on jette lui le feu. C'est-à-dire que nous-mêmes, on provoque déjà un nouveau désordre, alors que nous n'avons pas encore réussi à réorganiser les choses après ce qui s'est passé lors des élections de 2011. Donc les évêques voient loin, surtout qu'eux, ils ne visent pas le pouvoir, enfin. Ils ont un pouvoir spirituel. Tout ce qu'ils cherchent aujourd'hui, c'est le bien-être de ce pays. Et la population souffre, et ils en parlent.
Oui, mais monsieur l'abbé, avant d'accorder la parole à nos auditeurs qui nous ont déjà réjoui,
oui.
Mais aujourd'hui, avec les négociations de Kampala, ce qui se tient à Kampala, oui, on se rend compte, en tout cas pour une opinion, oui, c'est déjà là une violation de l'ordre constitutionnel. Parce que s'il faut parler avec ceux qui tiennent des armes pour accéder au pouvoir, n'est-ce pas là déjà une façon de violer la Constitution?
Mais ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, eux-mêmes, ils avaient pris les armes, non? C'est ça. Deuxièmement, ceux qui sont allés négocier avec M23 là-bas, ils sont allés avec l'autorisation de qui? On a un parlement, non? Ils l'ont fait de manière cavalière. Aujourd'hui qu'ils ont le dos contre le mur, ils veulent brandir des textes de loi. Tout cela mérite d'être réfléchi, mérite d'être discuté. Voilà.
Donc c'est là l'importance maintenant du dialogue pour toucher la cohésion.
Nécessairement.
081-890-6315 pour participer à ce débat.
Parole aux auditeurs.
Étienne, vous êtes à Guémena, Jean-Pierre à Issiro, Sylvain à Kinshasa. Bonjour Étienne.
Bonjour à toi, Kapi. Bonjour à tous les auditeurs qui nous suivent.
Voilà, vous avez suivi tous, disons, la position des évêques qui, au fait, au niveau, à travers la conférence épiscopale nationale du Congo, qui s'est dit favorable au dialogue national initié par le chef de l'État comme voie idéale de sortie de la crise et fait quelques propositions sur les contenus de ces concertations, dont entre autres le respect de l'ordre constitutionnel. Alors, que vous inspire la proposition des évêques du Congo?
Merci, monsieur le journaliste. Je pense que la position des évêques vraiment est une position appréciable dans la mesure où, d'abord, les évêques catholiques et l'Église catholique a une position non négligeable dans notre pays, la République démocratique du Congo. Alors, pour cela, surtout que ce sont des religieux et des parleurs spirituels et sociaux, donc, quand ils réfléchissent et donnent un mémorandum et jusqu'à aller même rappeler à l'autorité compétente sur certaines prérogatives. Donc, je pense que ce sont des avancées où l'État congolais doit vraiment en tenir compte. Parce que je viens de suivre l'institution qui a ici un peu d'explicité, les causes même de tout le désordre qui surgit maintenant au Congo. C'est vrai, tout part d'abord des élections de 2011 et aussi, non seulement de l'histoire des élections, mais aussi, on doit parler aussi du préparatif de ces élections même, parce que nul n'ayant aucun Congolais d'aujourd'hui ne peut dire que les préparatifs sont très bons, ni même la tenue de ces élections. Il n'y a pas eu une bonne élection au Congo, les préparatifs même n'ont pas été bons. Comment? Je me souviendrai que la Constitution a été modifiée ici avant que les élections ne puissent avoir lieu. Si cela a été modifié, pourquoi? C'est parce que ceux qui sont au pouvoir savent que pour gagner les élections, il fallait modifier la constitution à leur faveur. Et ce qui a été fait. Alors, les démarches qui se prennent maintenant aujourd'hui, monsieur le journaliste, sont des démarches qui tentent à ramener le peuple congolais dans la bouche. Pourquoi les élèves congolais, étant donné que ce sont les peuples qui nous prennent, ils ont bien conscience qu'on puisse et qu'ils puissent interpeller d'abord les autorités de sorte que, vraiment, s'il faut, la tenue de cette élection-là, mais d'abord, ils ont tenu à ce que l'article 220 de la Constitution ne puisse pas être touché. Ce vote, c'est quand même doit rester verrouillé de sorte que vraiment cela puisse traiter de grands pour notre République démocratique du Congo. Mais aussi, je pense que quand on doit tenir le dialogue national, non, mais c'est bien, parce qu'on doit chercher un cadre neutre pour pouvoir conduire ces débats. Mais à l'autre gré de moi, c'est comme c'est la majorité qui est en train de chercher à diriger ce dialogue. Mais quelle sera la nécessité de ce débat? Donc, l'important, le problème congolais ne peut pas trouver des solutions qu'en dehors du Congo. Non, les Congolais sont capables eux-mêmes de trouver des solutions à certains problèmes.
Oui, mais
le dialogue national souverain qui était parti.
Oui.
Le dialogue, c'est une initiative même de l'Église catholique. Et vous connaissez les résultats de ce dialogue-là, où après vraiment tout le monde a senti que vraiment ce dialogue avait vraiment son pétard d'or. Donc nous souhaiterions à ce que l'idée de dialogue national, c'est bon, mais que les Congolais eux-mêmes puissent se réunir autour d'une même table, discuter des vrais problèmes congolais, mais dans la sincérité. Il ne faut pas aller avec l'esprit de soit partager le pouvoir, soit dans l'esprit de tirer le gâteau, mais au moins relever les vrais problèmes qui touchent à la nation congolaise.
Oui, oui, mais pour vous, problèmes. Oui, Étienne, pour vous, quels sont les vrais problèmes à traiter au cours de ces assises-là?
Allô?
Oui, pour vous là, Étienne, vous qui nous suivez, quels sont les vrais problèmes qui doivent constituer les débats, qui vont faire l'objet des débats, et d'ailleurs au cours de ces dialogues?
Ok, quant à moi, j'ai au moins 400 problèmes qui sont vraiment relevés dans ces débats. D'abord parce que l'invité venait de dire que les élections de 2011 n'ont pas été à la hauteur des élections attendues par la nation congolaise. Donc, on doit interpeller, on doit corriger cette faute-là, ces erreurs-là, de sorte que cela ne revienne plus. Ça, c'est un. Deux, on peut vraiment chercher à mettre le peuple congolais à sa juste valeur. Monsieur le journaliste et ceux qui nous suivent, vous savez que le Congo est un pays potentiellement riche, mais dont la population vit dans une pauvreté vraiment bien. Donc, ça, c'est pas comme le fait. Donc, on doit se réunir. Au lieu que les politiciens ne voient que les appartenances politiques, les tendances politiques, non, mais qu'ils voient d'abord l'économie de notre pays, le social de la population, et le fait qu'ils aideraient à ce qu'on puisse vraiment aller de l'avant. Garantir, au troisième point, l'intégrité territoriale, monsieur le journaliste. Vous savez, le Congo est un pays souverain, et cet État pays souverain, les dirigeants congolais doivent avoir vraiment l'esprit de sauvegarder l'intégrité territoriale. Aujourd'hui,
voilà, on a des petits problèmes avec Étienne, hein. La ligne s'est interrompue brutalement, donc on ne pourrait pas poursuivre cet entretien avec Étienne, qui contribuait quand même dans ces débats. Jean-Pierre, vous êtes à Issirou, merci de nous rejoindre. Bonjour Jean-Pierre.
Oui, bonjour à vous et bonjour à l'invité et tous les auditeurs de la radio pratique.
Voilà, vous avez suivi tout à l'heure Étienne, qui d'ailleurs a parlé de quatre points, hein, selon lui, qui pourrait faire l'objet d'ailleurs du débat autour du dialogue national pour la cohésion nationale. Il a parlé des élections, il parle également de la valorisation du peuple congolais et qu'on arrive à garantir l'intégrité territoriale. Et voilà, au moment où il voulait aborder les quatre points, il y a eu coupure de communication. Donc, Sylvain, Jean-Pierre, pardon, vous êtes avec nous. Vous êtes à Issirou, dans la province orientale. Que vous inspire d'abord la proposition des évêques du Congo? Est-ce que vous partagez également le point de vue de votre prédécesseur?
Oui, d'abord, moi, j'apprécie beaucoup les propositions des évêques, puisque vous savez, les évêques représentent une couche importante des sages, des personnes qui ont une certaine sagesse dans la conduite des choses dans le monde, et qui ont vécu les grands moments de notre pays. Et quand ils s'assoivent pour parler d'un problème de la société et qu'ils donnent des propositions à notre pays, faut pas que nous puissions les négliger ou faut pas que nous puissions toujours prendre l'orgueil de dire que non, ce sont des évêques, ils doivent s'occuper de l'Église, ils doivent pas s'occuper de la conduite de la société. Non, il faut que nous puissions tenir compte de leurs recommandations et que nous puissions voir qu'est-ce que nous pouvons faire pour essayer de trouver des moyens pour pour résoudre ces problèmes, puisqu'ils ont donné des propositions qui sont vraiment pertinentes. Et si nous mettons ça en pratique ou si nous observons ça, les choses pourront aller
de l'avant. Et Jean-Pierre, qu'est-ce qui a retenu votre attention dans ce mémorandum?
Dans ce mémorandum, la chose qui m'a beaucoup tiqué, c'est d'abord par rapport à la révision constitutionnelle. Mmh. Vous savez, l'autre fois, nous avions eu la révision constitutionnelle et ça nous a apporté où nous en sommes aujourd'hui. C'est ce qui nous apporte d'ailleurs à voir les dialogues que nous allons avoir d'ici là. Puisqu'on a modifié la Constitution, on n'était même pas à plusieurs mandats des dialogues des Sanctiti. On nous apporte, on révise la Constitution. Et avec les tensions que nous avons encore et des poches des résistants, ça a encore créé des problèmes. Donc la société venait d'être, on venait de faire la réunification il n'y a pas longtemps, il y a encore des personnes qui ne sont pas du tout contentes de la manière que les choses se sont passées, et modifier la constitution encore une fois de plus cette fois-ci, ça pourra créer des problèmes. Le fait qu'ils aient tiré l'intention, qu'on ne puisse pas modifier les mandats des présidents de la République et tout ce qui est sécurisé par rapport à la constitution, ce qui ne doit pas être changé tel qu'on l'a prévu dans la constitution, c'est une chose trop importante. Et si nous respectons à cela, ça peut nous aider à aller de l'avant pour ce que nous pouvons avoir donc une personne qui est à la tête du pays, ça peut changer cette fois-ci. On peut avoir une autre personne. Ça, c'est important dans notre pays. Ça sera pour la première fois.
Merci beaucoup, Jean-Pierre. C'est vrai, un pays post-conflit.
Alors, les propositions par rapport au dialogue qui doivent se tenir, moi, je pense plus qu'on doit d'abord mettre les points principaux par rapport à l'armée. Puisque l'armée de notre pays pose des grands problèmes aujourd'hui. Notre pays, la population souffre déjà du social, mais en dehors de tout ça, la population souffre encore des problèmes des guerres.
Dans la question sur la réforme.
Mais en province orientale, nous avons à Bafassende, où Morga est en train de mettre tout en péril. La population qui n'a même pas des moyens, mais qui fuit à chaque fois. Mais ce n'est pas seulement là-bas. Partout, nous attendons des problèmes où l'armée ne réussit pas à mettre de l'ordre et aussi à l'intégrité du pays. Donc, je soutiens beaucoup que nous puissions mettre d'abord nos forces sur l'armée. Puisque cela a échoué pendant la transition, mais que cette fois-ci, on puisse voir ce qu'on doit faire pour l'armée, mais aussi ce qu'on doit faire pour que, en fait, nous puissions avoir ce qu'on donne l'éthique au sein des personnes qui sont un peu dédiées de diriger notre pays, puisqu'on ne doit pas continuer avec la corruption, avec l'impunité, toutes ces choses-là.
Voilà, parce que vous l'avez abordé, les évêques ont fait aussi mention de ça dans leur mémorandum, l'éthique politique. Hein. Je crois que nous allons revenir sur ça également, Jean-Pierre. Merci d'avoir appelé les sirops, et nous retenons qu'un pays post-conflit, c'est un pays fragile, il ne faut pas davantage les fragiliser, non, surtout en révisant chaque fois la Constitution, selon vos propos. C'est une façon de fragiliser davantage le pays. Alors, vous avez proposé pour que les débats se tiennent au niveau du conseil de ces dialogues nationaux, qu'on mette l'accent sur la réforme de l'armée et aussi la question de l'éthique politique. Merci d'avoir Jean-Pierre d'avoir appelé du sirop. Sylvain, vous êtes à Kinshasa. Bonjour et merci de nous rejoindre. Bonjour Sylvain.
Bonjour, bonjour à tous et à l'invité.
Voilà, Sylvain, vous avez suivi vos prédécesseurs, vous avez la parole.
Merci. Je pense que je suis arrivé et on est arrivés tous. Parce qu'on savait qu'un tel moment était déjà prévisible dans les esprits. Aujourd'hui, l'histoire nous apprend. Comme on le dit, les conseils corrigent, les conséquences corrigent mieux que les conseils. Déjà au lendemain de la journée fâcheuse, regrettable, aussi déplorable, du 28 novembre 2011, on avait déjà cette vision de pouvoir se réunir pour défendre notre pays, pour partager, afin de donner de la valeur à notre pays. Alors, j'ai dit d'abord que le mémorandum de nos pères catholiques, des évêques, est très indispensable. C'est un mémorandum dans lequel il définit d'abord la procédure de la sortie de cette crise qui est imposée par l'involonté et l'impréparation et notre couche politique mal intentionnée. Alors, à ceci, je pense que la tenue de ce dialogue doit se baser, il doit être fondé sur trois principes. Mmh. Le premier principe, c'est d'abord chercher l'unité. L'unité de ce pays a été vendue. Maintenant, il faut les retrouver. Unir tous les Congolais. Parler le même langage. Viser et rester sur les mêmes pas pour marcher ensemble. Deuxième principe, on doit maintenant lutter contre l'impunité. Parce que l'impunité est vraiment galopante. à une échelle jamais vue. Et maintenant, on doit comprendre qu'on est, on est imposé et qu'il faut lutter contre cette impunité-là. Alors, troisième principe, il faut maintenant, en tant que pays souverain, en tant qu'une république, avoir une seule armée. C'est-à-dire, maintenant, combattre, parce qu'on est déjà unis, parce qu'on a senti, on a accepté qu'il y a l'impunité, maintenant, on doit lutter contre toutes ces mauvaises armées. Donc, avoir une seule armée. Mmh. Donc, c'est sur ces trois principes que le dialogue doit être fondé. En tout cas, je salue surtout le patriotisme des Congolais. Le Congo a besoin des hommes qui s'élèvent comme ça pour le bien-être de cette population. Et aujourd'hui, les âmes sont en train de se perdre, nos frères, nos sœurs, nos mamans, nos papas, mais innocemment dans des régions touchées par la guerre. C'est ce qui n'est pas normal. Donc, je pense que dans ce dialogue, il va falloir se parler, se dire toute la vérité. Alors, je ne suis pas content avec ce qu'ils disent pour ceux de la majorité qui vaillent déjà et qui sont en train de partir très loin pour conclure que lors de ces assises-là, ils vont procéder au partage du pouvoir. Mais ça ne doit pas être ça, surtout le privilège et le point mobile de ce dialogue-là. Donc, avant la tenue de ce dialogue-là, qu'on reste d'abord sur un même état d'esprit, que le pays est au bord d'un ravin. Il faut les sauver. Et quand on doit les sauver, qu'on saura qu'est-ce qu'on doit faire. Parce que les élections ont construit un tableau noir pour ces
élections. Voilà, Sylvain, ne revenons pas sur. Ne revenons pas encore sur ce que les autres ont déjà dit. Hein, avant, ils ont déjà parlé des problèmes des élections. Notre invité s'est penché longuement sur la question également. Merci de nous avoir apporté quelques précisions sur les trois principes, en tout cas pour vous, qui doivent constituer normalement ce dialogue, notamment l'unité nationale, l'impunité et puis la réforme de l'armée. Et vous saluez de demain le patriotisme congolais. Deux évêques, merci Sylvain. 081-890-6315 pour participer à ces débats.
Parole aux auditeurs.
Monsieur l'abbé François Louyéyé, nous revenons à vous. Vous êtes aumônier de la classe politique, vous avez suivi les uns et les autres. Oui. Beaucoup d'inquiétudes, beaucoup d'appréhensions et pratiquement les gens sont tout à fait d'accord. Et ils souhaitent aussi que ce dialogue soit tenu le plus vite que possible. Oui. Mais la matière, ils ont défini comme les évêques, oui, l'éthique politique, l'unité nationale, la réforme de l'armée. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire concrètement dans quel esprit les évêques parle de l'éthique politique, notamment?
Voilà, je vais lire ce que les évêques disent, comme ça on va l'entendre de leur propre bouche. Que le dialogue envisagé affronte avec courage et sincérité les préoccupations vitales de la nation. Donc, il faut qu'on aille aux préoccupations vitales de la nation. Dans le respect des opinions des uns et des autres, que l'on promeuve le bien supérieur de la nation. On doit viser le bien supérieur de la nation. Et puis, l'aspect moral, la refondation morale de notre société doit demeurer au centre des préoccupations de tous. Car sans éthique dans l'agir politique, il est difficile à la RD Congo de progresser et de se développer. Ils insistent beaucoup sur la dimension morale. La dimension morale, c'est quoi? C'est dans quel esprit, comment concevons-nous le pouvoir dans notre pays? Malheureusement, aujourd'hui, le pouvoir est conçu dans notre pays comme, la possibilité que j'ai de m'enrichir le plus facilement et le plus rapidement. On oublie que le pouvoir est d'abord et avant tout un service rendu à la nation, c'est-à-dire à ce peuple qui m'a délégué pour que je gère la chose publique en son nom et que je doive en rendre compte. Or, malheureusement, aujourd'hui chez nous, nos gouvernants ne rendent compte à personne, surtout qu'ils sont eux-mêmes juges et partis. Ceux qui sont au Parlement, ils vont ensemble avec ceux qui sont dans l'exécutif, ceux qui sont au gouvernement. Et ceux qui sont au gouvernement, ils tiennent le pouvoir judiciaire sous leurs mains. Il n'y a pas d'indépendance. C'est ce qui fait que, eh bien, entre eux, ils s'entendent pour se partager le dû qui aurait dû être redistribué à toute la nation. Il y a là donc une certaine trahison. L'autorité politique doit savoir que sa première responsabilité doit être le souci de la population. Or, malheureusement, ce n'est pas le cas. Et de l'autre côté aussi, la population elle-même, elle, Et pourtant, il devait être organisé à travers les associations de la société civile.
Dans la démocratie participative, donc il faut participer.
Tout à fait. Pour continuer à contrôler ceux à qui il avait donné la charge de le représenter, de diriger le pays. Or, malheureusement, la population...
Pas très bien informée, pas très active, et aussi ne participe pas.
En plus, elle affronte toujours la police dans la rue, c'est ça le problème. Vous voyez, l'expression populaire dans la démocratie est reçue comme une manière, comme une expression démocratique. Et cela est même prévu dans notre constitution. Les articles 22 et les articles 26 assurent à la population cette possibilité de faire entendre sa voix par des manifestations publiques. Pourvu que, bien sûr, ces manifestations ne puissent pas troubler l'ordre public. C'est entendu et c'est connu. Mais chez nous, ici, ce n'est pas le cas. Chaque fois que la population veut manifester sa responsabilité politique, elle va rencontrer...
Donc ça peut être aussi l'objet de la question qui peut être traitée dans ces dialogues.
Oui, c'est pourquoi les évêques ne bloquent pas tout. Ils disent, voilà, toutes les matières vitales. D'où le travail que doit avoir cette commission préparatoire, cela est indispensable, pour recevoir les différentes attentes venues des différentes couches de la vie sociale, les classes politiques, la société civile, les politiciens, etc. Mettre tout ça ensemble et tamiser pour qu'on arrive à un projet de débat, un document de travail qui permettra alors à ces assises de se tenir.
Oui, oui, monsieur l'abbé, vous, en tant qu'aumônier de la classe politique, comment voyez-vous la demande de la diaspora qui insiste à ce que qu'elle soit partie prenante de ces dialogues?
Moi, ça ne me gêne pas qu'il y ait la diaspora, que des gens qui viennent représenter nos frères et sœurs vivant à l'étranger. Parce que n'oublions pas que, dans la vie de tous les jours ici à Kinshasa, ici au Congo, mais ces frères-là travaillent beaucoup. Il faut aller dans des agences de transfert de fonds pour aller voir comment les gens veillent jusqu'à la nuit pour attendre $100, pour attendre €100 qui vient de son frère qui est en Europe ou d'un deuil qu'il faut sortir. Tout ça, moi... C'est des gens qui ont le souci de leur pays. Croyez-moi, beaucoup de ceux qui sont à l'étranger ne sont pas heureux de vivre là. Ils auraient voulu revenir ici. Mais dans quelles conditions, dans quel cadre? Moi, ça ne me gênerait pas qu'il y ait des délégations, des amis qui viennent représenter aussi ceux qui sont à l'extérieur. Moi, ça ne me dérange pas du tout. Mais je ne voudrais pas non plus qu'on ait affaire à une assemblée mastodonte où on va rassembler toutes sortes... Non, non, non. Il faut qu'on élève quand même le niveau de ce genre de rencontres. J'ai été au dialogue intercongolais de Saint-City. J'ai été à la conférence de la souveraine, on a vu que certaines lourdeurs venaient du fait que les participants n'avaient pas toujours le profil voulu. Il faut un profil. C'est un débat d'idées qu'on va mener. Alors, donc, de ce côté-là aussi, qu'on ne pense pas que ça sera encore la foire ouverte pour les partis politiques. Non, je crois qu'il y a un travail sérieux qui doit se faire, et pour cela, il faut que ce travail soit bien préparé.
Voilà, mais savez, comme c'est parole aux auditeurs, on va encore accorder la parole à la deuxième série des auditeurs. Il y a Freddy qui est à Kindu, Steve Mbandaka et Kabongo à Kinshasa. Freddy, merci de nous rejoindre. Bonjour.
Bonjour, bonjour, Gilles.
Voilà, Freddy, vous avez suivi vos prédécesseurs qui ont eu l'occasion peut-être de donner quelques points, selon eux, hein, qui souhaiteraient d'ailleurs que ces points soient abordés lors du dialogue national. Vous avez à votre tour la parole, Freddy.
Ok, merci beaucoup, merci beaucoup. Je dis d'abord merci pour l'opportunité que vous m'offrez pour pouvoir intervenir dans cette émission. Et je dis aussi bonjour à toute l'équipe des paroles aux auditeurs de la radio KPGR.
Merci, Freddy.
À mon avis, je pense que cette démarche, hein, jusque-là, elle est encore salutaire, dans la mesure où nous sentons là, et c'est comme si les évêques, hein, seraient en train d'exercer une pression sur les pouvoirs, ce qui est une bonne chose, dans la mesure où ils s'inscrivent, comment dirais-je, dans la logique réelle pour pouvoir ramener la...
Dommage, dommage, on a des problèmes aujourd'hui avec nos amis de Kindu. Ben, c'est une partie remise, je crois que la réalisation va nous aider à reprendre, hein. Freddy, peut-être un peu plus tard. Steve, vous êtes en Bandaka, bonjour.
Oui, bonjour Gérard.
Voilà Steve, que vous inspire la proposition des évêques du Congo contenue dans leur mémorandum?
Oui, d'ailleurs avant d'arriver au niveau des évêques, je tiens d'abord à saluer l'aumônier qui est au studio là-bas. Il a des propositions qui sont vraiment très apaisantes, des Merci. Propositions qui tiennent compte. Mais moi, je voudrais ici, par rapport à la proposition des évêques, dire trois choses un peu importantes. La première des choses, c'est la dimension de l'éthique qui a été parlée, qui est très importante. Cette dimension est très importante. La deuxième des choses, c'est la dimension politique. Et la troisième des choses, c'est... Si on fait la perspective d'avenir, je voudrais ici revenir sur la dimension de l'éthique. je ne sais pas comment le pouvoir est en train de jouer. Parce que le pouvoir a promis des consultations pour ceux qui ne veulent pas parler, n'est-ce pas, du dialogue, ils parlent de la consultation. Consulter veut dire proposer et attendre. Et de cette façon, il faut aussi donner la lumière sur ce qu'on est en train de faire. Mais ce que nous constatons, c'est encore pire. Regardez seulement la façon dont Tshisekedi a été accueilli hier. Ça, c'est encore nous filtrer. On se base sur quoi dans ce dialogue-là? La dimension de l'éthique et de la morale politique a été bannie. Le pouvoir doit nous montrer sa vraie face. Il veut quoi? Puisque quand aujourd'hui Tshisekedi revient au pays et on lui accueille par des matraques, par des bombes lacrymogènes, ça nous gêne. Est-ce qu'on veut vraiment laisser dialogue? Je mets une parenthèse de ce côté. Je prends la dimension politique. Ils ne veulent pas parler du dialogue. Ils veulent parler des consultations politiques. Qui sont les acteurs clés, n'est-ce pas, de ces consultations? J'ai vu le président de l'Assemblée nationale aller consulter des petits politiciens, permettez, de l'opposition. Et au Congo...
Voilà, dommage. On a vraiment de sérieux problèmes avec nos lignes téléphoniques. On va peut-être revenir aussi sur Steve, mais on retient que Steve fait un constat. Hein. En tout cas, ces derniers temps, on se paye des mots. Tantôt c'est dialogue, tantôt c'est concertation, consultation. Mais lui, il aimerait bien que la question soit traitée en trois dimensions. La dimension de l'éthique, la dimension politique et aussi perspective d'avenir. Voilà, donc Steve, merci d'avoir appelé et surtout d'avoir donné cette contribution à cette émission. Kabongo, vous êtes à Kinshasa, nous revenons à vous. Kabongo, bonjour.
Bonjour, Mbote Diambo, à tous les occupants de la radio de la paix.
Merci, Kabongo, vous avez la parole.
Pour répondre à votre question, d'abord, j'ai voulu faire remarquer à ceux qui nous dirigent, ceux qui nous voient et ceux qui nous suivent que dans le mémo des évêques, il reflète une seule chose, c'est celle de faire voir à tout le monde que le monopole de l'intelligence n'est pas entre les mains de ceux qui dirigent. Vous voyez, d'une manière détaillée, on vous soulève un problème, on vous donne même la solution du problème. Moi, je pense que c'est ça la réponse à tout ce qu'il y a comme problème. Donc, d'une manière générale, c'est que ça m'inspire. Ça montre à tout le peuple congolais que le monopole de l'intelligence n'est pas entre les mains de ceux qui nous dirigent. Ces gens qui sacrifient deux fois leur vie au service de Dieu, moi je pense que ils sont à la hauteur de ce qu'ils sont en train de faire parce qu'ils ne voient que la souffrance du peuple. Ils se disent, comment est-ce que quelqu'un peut venir prier Dieu s'il a des problèmes qui l'empêchent de prier, pendant que c'est son semblable, l'être humain, qui le maltraite. Donc, ces gens-là se sont rendus compte que quand on laisse un mal s'accomplir sous ses yeux sans réagir, on est complice de ce mal. Alors, ils n'ont pas voulu être complices du mal qui est en train de se faire, et ils ont dénoncé. Donc, moi, je pense que la solution, c'est suivre ce qu'ils ont dit. C'est tellement clair et limpide qu'on n'a même pas discuté là-dessus. Le mal, c'est que les événements arrivent toujours à nous rattraper. Si on avait entendu ce qu'on avait dit en ce temps-là, ce dialogue a été réclamé à cri et à corps. On n'a jamais entendu. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'il faut ce dialogue-là pour que ça aille de l'avant. Mais on aurait gagné en temps, en nombre, on n'aurait même pas eu de mort d'homme à l'époque. Mais aujourd'hui, on le fait. Et moi, je pense, c'est pourquoi ça traîne. On commence à regretter. Moi, je pense que la majorité est en train de regretter d'avoir accepté et avoir promis de faire cette chose ici. Maintenant, ils sont en train de se rendre compte qu'en faisant cette chose-là, dans le format qui est demandé, et il y a leur mal, leur méfait, qui sera étalé au grand public. C'est cette peur-là d'échouer. C'est cette peur-là d'être coupable. C'est cette peur-là de voir son mal étalé au grand jour qui fait mal maintenant. Le dialogue n'est que la solution. Les mots ont été bien choisis. C'est la solution en or. Et la solution la plus pacifique. pour la situation que nous sommes en train de vivre actuellement.
Merci beaucoup, Confiance Kabongo, d'avoir appelé de Kinshasa. Vous regrettez, hein, c'est vrai que vous parlez de monopole d'intelligence qui n'est pas du tout l'apanage des politiques. Et là, vous rejoignez pratiquement la théorie du professeur Bongongo qui parle de trois mots qui rongent en tout cas la classe politique aujourd'hui ou la vie politique en RDC, la peur, la crainte et la méfiance. Alors aujourd'hui, les gens sont, ils se regardent en chaîne de faïence. On ne fait pas aller directement à ces dialogues parce que on se pose encore des préalables pour éviter à ce qu'il y ait des surprises. Merci beaucoup, Confiance Kabongo. Nous prenons Adrien qui est à Kananga et nous allons terminer cette deuxième série avec Franck qui est à Vienne, en Autriche, avant de revenir avec notre invité, Monsieur l'abbé François Louyéyé, qui est aumônier de la classe politique. Adrien, vous êtes à Kananga. Bonjour. Malheureusement. Alors, on va très loin, en Autriche, avec Franck qui est à Vienne. Bonjour, Franck.
Bonjour, bonjour à l'abbé François Louyéyé qui est là au studio.
Bonjour. Voilà, Franck, vous avez la parole.
Oui, je vous en prie. Je crois que je vais essayer de compléter ce que l'abbé venait de dire. Donc, par rapport à tout ce que les évêques venaient de dire, il faut aussi rappeler la dimension prophétique de l'Église, quoi, parmi ses nombreuses obligations morales pour l'avenir des sociétés humaines. Puis, que ce soit à Kinshasa ou dans le Congo profond, ces évêques côtoient la vraie réalité, la vraie misère de la population parce qu'ils vivent avec elle au quotidien. Et même dans certains coins de la République et du Congo, même si certaines structures étatiques sont inexistantes, l'Église s'arrange à être toujours présente à travers certaines œuvres, quoi. Puis, si on doit être objectif, ce sont des réalités qui sont vécues par une bonne couche de la population congolaise. Je trouve personnellement que les pères évêques n'ont pas exagéré, car pour chaque point, ils commencent par reconnaître certaines avancées sur terrain avant de dénoncer certains écueils qui s'érigent en obstacle pour la bonne marche des institutions de la nation. Mais en réalité, il n'y a pas d'autre son de cloche du côté de la population de la basse classe. Puis nous devons aussi retenir que ce militantisme de l'Église catholique par l'entremise des évêques existe depuis les années de la lutte pour l'indépendance avant 1960, si on peut avoir le sens de l'histoire. Le fait cardinal Manuela a plusieurs fois interpellé le gouvernement de Mobutu et c'est sur la même ligne que se trouvent les actuels prélats qui cherche à thématiser un peu, à donner affaire de prévention qui doit être comprise comme des sonnettes d'alarme, quoi. Mm-hmm. Je crois qu'il faut bien comprendre ça, que les évêques n'ont pas envie de devenir tous des chefs d'État, mais ils décrivent l'état du lieu, ils décrivent la misère de la situation. Je crois qu'on doit être vraiment objectif, on doit être correct pour comprendre qu'ils ne sont pas allés par quatre chemins pour décrire ce qui s'est vu par la majorité des Congolais. Je crois que c'est la lecture que moi je fais personnellement de ce mémorandum des évêques. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Franck. Nous rappelons que vous avez appelé de Vienne en Autriche, 081-890-63-15 pour participer à ces débats.
Votre radio vous propose chaque après-midi 2 heures de découverte. De 13h à 15h, partez à la découverte des recettes et des femmes du Congo. Suivez nos reportages, vie quotidienne, paroles d'enfants et femmes d'aujourd'hui. Laissez-vous guider par les balades en zigzag. Un zeste de culture et beaucoup de musique. 13h, 15h, découverte, le cocktail de l'après-midi sur Radio Okapi.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Abbé François Louyéyé, vous êtes aumônier de la classe politique, vous avez suivi les uns et les autres. Je retiens qu'en tout cas la plupart des auditeurs, ils sont revenus sur cet aspect réforme de l'armée et aussi la dimension morale qu'on doit normalement insérer dans le chef de tous les politiciens. Et ça, c'est très important. Si vous pouvez réagir par rapport aux réactions des uns et des autres.
Oui, je souscris tout à fait à ce qu'ils disent, hein, parce que participant à la vie de cette population, eux-mêmes, ils vivent de l'intérieur les besoins de ce pays. Il faut que le pays soit sécurisé. Pour que le pays soit sécurisé, il faut que nous ayons une armée en bonne et due forme. Or aujourd'hui, tout le monde reconnaît que nous n'avons pas véritablement une armée. Nous avons des milices commises à la protection des individus, ayant des portions de pouvoir qu'ils entendent garder envers et contre tout. Alors, pendant que ces personnes sont en train de protéger les corps de leurs chefs, le pays n'est pas protégé. Les frontières sont poreuses et les gens viennent, ils se servent, voilà. Donc, c'est vraiment une nécessité. On a commencé une réforme, les évêques l'ont reconnu depuis une dizaine d'années aujourd'hui, mais ça ne donne pas de fruits. Ça montre que ceux qui entreprennent ces réformes n'ont pas envie que cela aboutisse.
Ou carrément, ils s'y prennent mal.
Ils s'y prennent mal, et en tout cas, il n'y a pas de volonté politique visible que on puisse vraiment avoir une armée forte comme on en a connu dans ce pays. Et l'histoire récente nous le prouve. On a eu des armées fortes dans ce pays. Donc ça, c'est une première chose. Par rapport à la dimension éthique, mais c'est fondamental. Une société ne peut pas marcher sans éthique. Et si les gouvernants eux-mêmes, parce que les évêques disent là, l'exemple doit venir d'en haut, ça veut dire que les autorités s'illustrent dans l'immoralité politique, économique, dans le pillage du déni public.
Mais pourtant, nous avons vu ces derniers temps, il y a pas mal de campagnes de civisme. Civisme sur la citoyenneté, civisme sur le code de la route, civisme pour tel domaine. C'est une volonté manifeste de pouvoir quand même changer des choses.
La parole ne suffit pas. Il faut qu'on voit maintenant concrètement par des actes que cela fonctionne. Parce que tout le monde sait que le déni public continue à être dilapidé. Tenez, est-ce que vraiment c'est moral qu'un ministre ou un responsable politique qui accomplit un acte au nom de l'État et avec des moyens de l'État puisse l'attribuer à lui-même au point d'amener des caméras de télévision, etc., pour que cela lui revienne comme si c'était un acte personnel et privé?
Mais vous avez du pain sur la planche, monsieur l'abbé, parce que vous êtes aumônier de la classe politique. Vous côtoyez les politiques à tout moment. Vous parlez avec eux. Mais j'imagine, dans ces contextes, vous éprouvez énormément de difficultés. Et surtout en ce qui concerne le dialogue qui pointe à l'horizon. Et comment convaincre? Parce que déjà là, on sent qu'au niveau de l'opposition, l'opposition est divisée. Et il y a une partie qui accepte d'aller au dialogue, une autre rejette carrément.
Oui, mais nous ne devons pas nous décourager, parce que l'histoire nous renseigne que c'est la patience. La patience paye. Il faut y aller à petits pas, il faut y aller avec beaucoup de patience, avec beaucoup de confiance, et aussi avec beaucoup de compréhension. Ce que nous sommes en train de vivre ici, mais ce n'est pas nouveau. Avant la tenue de la conférence nationale souveraine, on a eu ce type de débat. Il y en a qui parlaient de la conférence constitutionnelle, d'autres du dialogue limité aux partis politiques, etc. Eh bien, il y en a d'autres aussi qui parlaient, n'est-ce pas, d'une véritable conférence souveraine. Alors maintenant, cette conférence qui a fait un travail de fond sérieux, un travail sérieux, dont les documents existent encore aujourd'hui, qu'on peut encore exploiter pour avoir un véritable projet de société, mais avant d'en arriver là-bas, il y avait des discussions comme on en a aujourd'hui. Mais comme le disait un des frères tout à l'heure qui est intervenu, l'histoire nous rattrape toujours. Donc on ne ferme pas les yeux. Les évêques ont parlé de l'heure du courage et de la vérité. Voyez, parce qu'ils ont dit, et ça déjà après, juste après les élections, il est donc indiqué que dans une démarche inclusive, l'on privilégie la voie du dialogue pour l'intérêt supérieur de la nation. Et il disait, l'heure du courage et de la vérité a sonné. Donc, ça demande de la part de ceux qui dirigent le pays aujourd'hui le courage de se dire, tiens, si nous sommes vraiment au service de la nation, il est bon que nous écoutions les forces vives.
Donc c'est une occasion, le dialogue, c'est vraiment, bon, c'est vrai que les pessimistes n'en voient pas de cette oreille-là, de ces yeux-là, pardon, pour dire que voilà, c'est une panacée, voilà, le dialogue apportera des solutions à tous les problèmes.
Non, c'est parce qu'ils craignent, ils croient que le dialogue va les déplumer, va les dépouiller de leur pouvoir, ils n'auront plus l'argent, ils n'auront plus l'influence, ils n'auront plus les véhicules. Voilà leur peur, voyez. Mais les évêques ne visent pas cela. Les évêques visent le bien supérieur de la nation. Et pour cela, il faut se mettre ensemble et parler, et dialoguer.
Voilà, on va conclure avec vous dans 3 minutes, monsieur l'abbé François Louis Ayé, aumônier de la classe politique, tout en accordant d'abord la parole à nos deux derniers auditeurs, Galvani et Amboujimaï, et on va revenir à Freddy de Kindou, qui intervenait tout à l'heure, qui a parlé d'ailleurs de la pression sur le pouvoir qui est faite par les évêques. Alors Galvani, on vous reçoit. Galvani, bonjour.
Bonjour, Gérard.
Voilà, on vous accueille avec joie dans cette émission. Vous avez la parole.
D'accord, merci beaucoup. J'apprécie d'abord les deux des évêques et les encourage vraiment.
Oui, rapidement, parce que vous n'avez qu'une minute, hein, Galvani. En tout cas, il faut être très précis.
Merci. Maintenant, concernant la situation de la concertation nationale dont les évêques ont aussi approuvé, qu'ils ont considéré comme une voie royale pour la survie de notre pays, j'approuve aussi cela. Mais le gouvernement, nous constatons au gouvernement, le gouvernement, c'est comme si le gouvernement faisait une chose et son contraire. Il prône la cohésion nationale. Mais la cohésion nationale ne se décrète pas comme un jour férié. La confiance d'un peuple ne doit pas aussi se décréter comme ça. Elle doit se mériter. Et le gouvernement doit d'abord poser des actes qui poussent la population à avoir confiance en lui. Et là, la cohésion nationale doit se faire de soi. Alors, il propose une concertation nationale. Mais jusque-là, les actes qu'ils sont en train de poser, ça ne prouve en rien qu'ils veulent cette histoire. Nous comprenons que non, le gouvernement n'a pas cette volonté. Et juste la prise de conscience elle-même là ne suffit pas. Elle doit être accompagnée de certaines actions. C'était un peu ma contribution.
Merci beaucoup Galvani, et on va accorder également une minute à Freddy qui était tout à l'heure avec nous en ligne. Hein. Il y a eu coupure. On revient à vous Freddy. Bonjour Freddy. Oui, bonjour.
Bonjour. Voilà, bonjour encore une fois de PCJR.
Voilà, vous parlez tout à l'heure de la pression sur le pouvoir, la pression exercée par les évêques hein, sur le pouvoir. Vous voulez dire quoi concrètement?
Exactement, c'est comme je venais de le dire live. Là, nous sentons que les évêques sont en train, n'est-ce pas, d'exercer une pression sur le pouvoir, ce qui est d'ailleurs une bonne chose. Et là, ils s'inscrivent dans la logique réelle pour pouvoir ramener comme... n'est-ce pas, cela est d'ailleurs reconnu dans les charges pastorales ou chrétiennes. Mais, vous savez, Gérard, nous, le peuple congolais, nous sommes très contents, cette mesure pour nous, elle est très salutaire. Mais tout ce que moi, je peux demander, n'est-ce pas, aux évêques, c'est de ne pas se dérober de cette logique, des conduites qu'ils ont déjà adoptées par des propos qui risquent de les verser dans l'arbitraire. Parce qu'on a senti à un moment donné, n'est-ce pas, bon, que les hommes de Dieu, ils arrivaient parfois, n'est-ce pas, à intervenir, n'est-ce pas, à tenir des pots sans mettre un peu d'eau dans l'air, sans mettre un peu d'eau dans l'air vin. Hein? Et cela avait entraîné des conséquences directes à l'endroit de l'air fidèle, et pourquoi pas, n'est-ce pas, à l'endroit même de la population congolaise tout entière. Mmh. C'est ainsi que moi je disais ceci. Vraiment, c'est une mesure qui est salutaire, mais il serait mieux que les évêques qu'ils puissent s'inscrire dans la logique de pouvoir, n'est-ce pas, et mettre la pression sur le pouvoir comme ils sont en train de le faire, au lieu de se verser dans qui risquerait de dérober, n'est-ce pas, de cette ligne de conduite et de le verser dans l'arbitraire.
Voilà,
nous sommes vraiment très, 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 je suis en train d'interpréter leur conscience.
Merci beaucoup Freddy, je crois que on va voir ça avec notre invité, monsieur l'abbé François, on va conclure quand même avec vous. Nous avons suivi, en tout cas on a une vue panoramique des inquiétudes et des appréhensions des uns et des autres à travers le pays, et je crois que ça c'est juste avec un échantillon. Et bien, si on pouvait prendre tout le monde, en tout cas je crois que chacun apporterait quand même sa pierre dans la construction de la nation, et surtout en ce qui concerne la mise au pied ou la mise en œuvre effective de la tenue de ces dialogues nationaux. Alors aujourd'hui, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut retenir? Est-ce la pression? Et cette pression-là, la manière dont les évêques utilisent, que les évêques utilisent pour faire pression, est-ce la bonne? Ou peut-être il faut utiliser d'autres approches?
Je crois que les évêques ont fait leur travail en tant que prophètes, on l'a dit. Ils disent dans quelle direction nous devons aller si nous voulons vraiment chercher le bien supérieur de la nation. Maintenant, le peuple, nos amis qui sont intervenus, oublient que les évêques s'adressent aussi à la population. Les évêques disent ceci, le peuple, tout en exigeant le respect de ses droits, est dans l'obligation de reconnaître et de remplir ses propres devoirs vis-à-vis de l'État. Donc, la pression, et c'est vrai, la démocratie fonctionne par des pressions. Hein? Il n'y a pas que les évêques à faire pression. La population doit apprendre aussi à faire pression sur ses gouvernants. Nos gouvernants ne marchent que quand vraiment la pression est forte. Or, de ce côté-là, malheureusement, on a l'impression que le peuple croit que c'est aux évêques à tout faire, à aller jusqu'au bout, même à destituer un chef. Non, ce n'est pas ça.
C'est pas leur mission,
c'est pas leur rôle, c'est pas... Les évêques éclairent la population, c'est-à-dire les gouvernants et le peuple, pour que chacun prenne ses responsabilités.
Donc on retient que l'Église, en tout cas, catholique, au Congo, c'est dit favorable à la tenue du dialogue.
À la tenue du dialogue.
Mais néanmoins, défini les points sur lesquels on ne peut pas toucher, par exemple, auxquels on ne peut pas toucher,
notamment l'article 220.
L'article 220. Voilà. Il ne faut pas qu'on y touche.
Oui.
Et aussi faire en sorte qu'il y ait réellement la cohésion nationale.
Exact.
Et aboutir à des résultats.
Tout à fait. C'est bien cela.
De cela. Merci beaucoup, monsieur l'abbé François Louyéyé. Nous rappelons à nos auditeurs que vous êtes aumônier de la classe politique. Vous avez bien voulu répondre en tout cas à notre invitation aujourd'hui. Et nous avons tenté par plusieurs fois d'ailleurs vous avoir pour des analyses politiques et surtout que vous travaillez aux côtés des classes, de la classe politique. Vous êtes l'homme, en tout cas la personne ressource pour éclairer l'opinion des uns et des autres. En tout cas, une fois encore, merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui et à très bientôt.
Merci JR, à bientôt.
Allô? Mais qui ne répond pas?
Voilà, c'est par ici que nous mettons un terme à cette émission et merci à tous d'avoir participé à ce débat. Merci également à Jean-Claude Siala qui a assuré la mise en onde de cette émission. Titi Poutou et Pierrot et Lamégi l'ont réalisé. J.R. Lungembo vous l'a coordonné et présenté sous la supervision de Julien Niamouini. Réécoutez cette émission sur www.radiokapi.net. De plus en plus, certaines entreprises congolaises recourent aux services de sous-traitance et dans bien des cas, le traitement assuré aux sous-traitants est loin d'être le meilleur. Parole aux auditeurs en parle demain, la question du débat, que faut-il faire pour améliorer les conditions du personnel non contractuel dans les entreprises privées? Envoyez-nous vos préoccupations à notre adresse pa@radiokapi.net. Vous pouvez aussi nous contacter directement au 081 890 33 15. Bonne écoute des programmes sur Okapi et à très bientôt.